présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Ricain dit à l'enfant, tout est prêt. L'enfant lui dit, le pape ne veut pas venir, c'est perdu. Ricain lui dit, dites à Galien, l'élu, de lui dire de venir. L'enfant lui demande, sous quel prétexte ? Ricain lui dit, celui de l'amitié. L'enfant demande un entretien à Galien qui veut bien le recevoir.
Entrez,
c'est l'enfant. Venez vous asseoir.
Bien.
Je vous écoute. Tout est prêt. Il ne manque plus que le pape. Il ne veut pas venir. Il n'y a que vous qui pouvez le faire venir. Galien lui demande, et sous quel prétexte ?
L'amitié. Vous lui direz que le saint curé d'Ars est votre saint préféré et que vous serez là vous aussi. Ce qui vous permettra de passer un moment d'amitié avec lui. Bien, je vais tâcher d'écrire cela. C'est ce qu'il a fait. Le pape, en lisant la lettre, est fou de joie. Il va pouvoir passer un moment avec son ami. Il téléphone à son secrétaire.
Allô ? Pouvez-vous venir ? J'ai à vous entretenir de quelque chose. Venez tout de suite. Merci.
Entre secrétaire.
Venez vous asseoir.
Il parle à son secrétaire qui lui dit
« Encore plus impossible. Vous vous rendez compte, le président du groupe Jeune Tout, celui qui a l'ADN de Dieu, les gens vont croire que vous le lui avez vendu. Il faut absolument refuser cette invitation. »
Le pape lui dit, « Mais à moi, ça aurait fait tellement plaisir. »
Le secrétaire lui dit, « C'est impossible, votre sainteté. Ce serait un scandale.
Trop terrible. Même les chrétiens diront que vous les avez volés de Dieu. »
« Bien, je dirai non. »
La réponse est négative. Jean d'Enfort ne sait que faire. Il va le dire à Galia.
Entrez. Entre d'Enfort. Venez vous asseoir.
Gaïa lui dit, « Or, le cerveau de mon ami est prisonnier à jamais du pape. »
L'enfant lui dit, « Hélas, oui. »
Gaïa lui dit, « S'il faut y passer, nous devons le faire. On tue le pape et on prend son cerveau. Comme cela, on n'a même pas à lui mettre l'autre. »
L'enfant lui dit, « Et ils vont élire un anti-français.
Alors que faire ?
Faisons en élire un autre, comme la première fois. »
On en choisit un, on lui donne un autre cerveau et on fait chanter les cardinaux.
L'enfant lui dit, il y a un autre problème. Comment tuer le pape et comment faire pour amener le cerveau jusqu'à Paris?
Gaïa lui dit, il doit bien y avoir une solution. En admettant que le pape soit tué, quel sera le nouveau?
L'enfant lui dit, un Italien. Le plus jeune possible, pour qu'il puisse bien recevoir le nouveau cerveau.
Je vais chercher. Gaïa lui dit, et le nouveau cerveau sera celui de Donetti, puisqu'il est prêt.
L'enfant lui dit, oui, mais il lui restera à avoir les informations du nouveau donneur. Donc cherchons le nouveau pape pour donner les informations au cerveau. Ensuite, l'on tue l'ancien, en lui prenant le cerveau de Guillaume.
D'Anfort cherche sur la liste des cardinaux celui qui pourrait le mieux aller. Il choisit un Féti, homme de 59 ans, grand, mince, cheveux châtains, visage noble. Homme sans histoire, ni liens familiaux. Il a fait ses études à Paris, aime bien manger, l'opéra, les voyages, pas de maîtresse ni de petite amie, politique de droite et aime bien vivre. D'Anfort a toutes ces informations par le primat des Gaules, qui est un de ses amis d'enfance, et le primat fait surveiller le cardinal Féti par un de ses amis à Rome. D'Anfort va voir les gens qu'il fréquente à Paris, où il aime vivre et où le cardinal est souvent invité. En Italie, Féti sympathise avec un Français qui lui demande « Il paraît que vous aimez beaucoup Paris. » « Oui, j'ai fait mes études. » « Vous avez gardé des amis ?»« Oui, beaucoup. Artistes, comédiens, peintres, musiciens. » « Des gens connus ?»« Certains, oui. D'autres, moins. » »« Par exemple, Frédéric Tocoma, Marc Rossillon, le Pierre-Marc Rossillon, Frédéric Thomas. Ah oui, Frédéric Thomas. Et vous avez l'intention d'aller séjour à Paris? Non, pour le moment. Mais si je suis invité, je ne dirai pas non. Une invitation de Frédéric Thomas? Oui, pourquoi pas. On enregistre plus d'informations sur Féti. On se renseigne sur ses écoles, quartiers, où il habitait, ses goûts pour manger, boire, habillement, voyage, souvenirs familiaux, religieux, études, travail, fréquentation. D'Anfort va tout dans tous les endroits où il y est allé pour apprendre le plus de choses possible. On fait une enquête chez les artistes aussi pour savoir lesquels ils fréquentaient, etc., etc. Même ses domestiques sont mis à contribution. Café, un auteur de pièces à succès, Drapin, ou D'Anfort, lui, propose 500 000 francs s'il embauche pour sa première chaîne pièce Frédéric Thomas, à condition qu'on lui demande d'inviter Fétis à sa pièce. Rapin, qui est un homme grand, sec, dans les 40 ans, habillé à la coule, pull gris et pantalon noir, lui dit « D'accord ». Il cherche une de ses vieilles pièces et va les proposer dans le même café à Frédéric Thomas, acteur que tout le monde connaît et que vous connaissez vous aussi. Frédéric lui dit « Je vais lire, après je verrai. Vous serez très bien payé. » « Je vous remercie, mais je vais lire d'abord. Donnez-moi votre numéro de téléphone. » Il le lui donne et Frédéric le quitte pour lire le manuscrit chez lui. Il habite avenue de l'Opéra, un grand appartement de 5 pièces. Il vit seul car son ami l'a quitté. L'immeuble est cossu. Il entre chez lui. C'est meublé Louis XV. Il va s'enfermer dans son bureau pour lire. L'histoire qu'il lit, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a des problèmes avec sa logeuse. Elle s'introduit petit à petit dans sa vie intime, le surveille, le séquestre. Et à la fin, juste au moment où il va se libérer d'elle, il a un accident et reste paralysé chez elle pour toujours. L'histoire lui plaît. Il téléphone à l'auteur. Allô ? Oui, c'est moi. Votre histoire me plaît, l'auteur lui dit. J'en suis enchanté. Venez me trouver pour discuter du contrat au théâtre des Batignolles. Bien, je viendrai à 15h. Très bien, je vous attendrai. Il entre dans le bureau de l'auteur. Venez vous asseoir.
C'est une petite pièce toute simple, sale, meublée 50. L'auteur lui dit :
Je vous offre, quel que soit le nombre de représentations, 50 000 francs, même s'il n'y a que deux représentations.
Frédéric est surpris. L'auteur lui dit :
Mais il faut, c'est qu'à la première de la pièce, vous invitiez votre ami le cardinal Fetti.
Frédéric est surpris :
Ah, pourquoi ? Parce que cela fait bien d'avoir à une première un cardinal, cela fait spectacle moral, vous voyez. Vous lui direz que les frais de voyage et son séjour lui seront payés, bien entendu.
Frédéric lui dit :
Sûrement pas. Cela risquerait de le vexer. Il croirait qu'on le paye pour une publicité.
Il doit venir par amitié pour moi.
Et s'il refusait ? L'auteur lui dit : Malheureusement, la pièce ne serait pas créée.
Pourquoi ?
Parce que nous n'aurons pas d'aide et le directeur du théâtre refuserait de la faire représenter.
Frédéric lui dit : Bien, je vais lui écrire pour l'inviter à cette première.
Mais il faudrait une date.
L'auteur regarde sur son agenda et lui dit :
Bon, voyons, dans 3 mois.
Dans 3 mois, mais c'est peu. Comment faire pour apprendre le rôle, les répétitions, les décors et tout ?
L'auteur lui dit : Ne vous en faites pas. Nous n'avons que 2 personnages et le décor est tournant.
Commencez à travailler le test. La comédienne qui sera pour vous donner la réplique, dès qu'elle sera choisie, je vous préviendrai. Écrivez de suite au cardinal et dès que vous avez la réponse, nous fonçons.
Frédéric lui dit : C'est un travail de titan que vous me demandez là. Vous êtes très bien payé et peut-être qu'il n'y aura que très peu de représentations. Tout bénéfice pour vous.
Frédéric écrit à son vieil ami le cardinal Fetti pour lui demander de venir à la première d'une pièce où il joue. Il lui dit que ça lui ferait très plaisir. Le cardinal Fetti reçoit la lettre de son jeune ami qu'il aime bien. Sans réfléchir, il lui dit qu'il viendra. Il viendra à la première de la pièce. Frédéric donne la réponse à l'auteur qui le dit au directeur du théâtre et le dit aussi à Danfort. Il sait que le cardinal viendra dans 3 mois à Paris et qu'il sera à sa merci. Mais que vont penser les autres pays ? 2 cardinaux en visite en France ? France qui sont obligés de se faire opérer et après deviennent pape. Cela va paraître louche. Mais lorsqu'ils s'en apercevront, la chose sera déjà faite. Il sera trop tard, le cerveau sera changé. Ils pourront manigancer pour les élections, dire surtout que le cardinal qui a fait un petit séjour en France, là, il va falloir jouer serré. Mais quoi faire ? En plus du chantage des cardinaux. Nous verrons bien. Pendant ce temps, Frédéric bûche son texte. Sa partenaire sera Annie Girardot. Gallien continue à écrire au pape, mais il a hâte de retrouver Guillaume tout refait. Il sera à lui, tout seul, dans un endroit secret. À lui, tout seul, dans un endroit secret. Un jour, il demande à Danfort, « Où irons-nous le cacher ?» Danfort lui dit,
« Ce sera sûrement mieux dans le château. Personne ne le connaît, il pourra sortir en toute tranquillité. Oui, vous avez raison. »
Le temps passe, tout est prêt, il ne reste plus qu'à agir. Gaïen demande, « Mais le pape, comment faire ?» Danfort lui dit,
« C'est vous qui allez l'attirer dans un piège, mais je vous expliquerai plus tard. D'abord l'autre. »
Les répétitions de la pièce se passent très bien. Le jour de la générale arrive et le cardinal Féti arrive en France en avion. Il arrive à Orly. C'est Frédéric qui le reçoit.
Merci d'être venu, monseigneur. Il n'y a rien. Pas de cérémonie entre nous. Nous sommes amis, n'est-ce pas?
Frédéric sourit. Féti demande. Tu me loges où?
Je crois que le plus simple serait chez moi. Très bonne idée. Comme ça, ça nous permettra de discuter.
Allez. Alors allons, monseigneur. Et Frédéric le mène chez lui.
Entrez, monseigneur.
Il fait visiter son appartement. Le cardinal lui dit,
c'est bien, pas mal. Pour un homme qui vit seul.
Frédéric lui dit, et toi avec tes 15 pièces à Rome?
Oui, mais moi, je suis cardinal, c'est plus normal.
On lui a prêté une cuisinière et une femme de chambre. Les domestiques ont été prêtés par l'auteur qui connaît une maison de placement. Une heure plus tard, ils sont tous les deux au salon, à siroter en Bourgogne, assis dans des fauteuils avant qu'on vienne leur servir à dîner.
Tout à coup, le cardinal devient tout rouge. Il suffoque. Il fait tomber son verre. Frédéric se penche vers lui. Le cardinal, le visage rouge, ne bouge plus. On entend que sa respiration, qui est rauque, et dur. Il n'ose pas se toucher. Vite, il sonne la domestique. Qui arrive en courant, comme si elle était derrière la porte pour faire son entrée comme au théâtre. Elle accourt vers eux et dit
« Surtout, laissez monsieur. Je vais appeler un médecin. Il a dû avoir une attaque, votre pauvre cardinal. » Ne le touchez surtout pas.
Et vite, elle va vers le téléphone.
Elle fait un numéro, vite fait. Venez vite.
Et elle a raccroché. Décidément, c'est une très mauvaise comédienne. Elle ne fait absolument faux. Elle parle trop vite. Elle fait trop vite les choses. Frédéric, heureusement pour elle, ne fait pas attention à ce qu'elle fait et dit. À peine a-t-elle accroché le téléphone que l'on sonne à la porte.
Elle court ouvrir. C'est un médecin, un grand homme sec, en habit noir, avec deux infirmières et un brancard. Il dit, il est où? Elle lui dit, il est dans le salon. Ils y vont. Ils ont fait tellement vite pour venir qu'on dirait qu'ils attendaient qu'on leur ouvre la porte. Ils arrivent au salon. Médecin salue Frédéric.
Et lui dit, médecin fœtus.
Il va vers le cardinal.
Ne le touche pas, Eddie. Il faut le mener de suite dans une clinique. Attaque. Il faut l'opérer de suite.
Les deux brancardiers mettent le pauvre cardinal sur le brancard et sortent de la pièce. Le médecin les suit, Frédéric aussi.
Il demande « Où vous allez le mener ?»«
Dans ma clinique, à Neuilly. Clinique où monsieur de Hautebord s'est fait enlever les amygdales. La clinique la plus chic de France et la plus chère. »
Frédéric demande « Pourrais-je venir le voir ? Pourrais-je venir avec vous ?»
Le médecin lui dit « Nous vous téléphonerons lorsque vous pourrez venir le voir. Au revoir, monsieur. »
Et il le dit. Frédéric va vite au salon pour téléphoner à l'auteur pour lui annoncer la mauvaise nouvelle.
Allô, c'est moi, Frédéric Thomas. Mais il est arrivé un malheur. Le cardinal, le pauvre cardinal, a eu une attaque cardiaque. Chez moi, on l'a amené à l'hôpital de toute urgence.
L'auteur lui dit, très bien.
Comment très bien?
Oui, très bien tout ça. Ne vous en faites pas. La pièce pourra se jouer. De toute façon, vous serez payé.
Bon.
Pendant ce temps, le pauvre cardinal, qui n'a toujours pas repris connaissance, a été mené dans la salle d'opération. L'ont fait comme pour Donetti. On lui ouvre le crâne, enlève délicatement le cerveau, on le met dans une boîte en fer, il est oxygéné et branché pour avoir du sang et relié à l'ordinateur pour le relier à l'autre cerveau pour que l'autre puisse avoir sa mémoire. Le cerveau qu'on va mettre à Féti est celui de Donetti, le vrai cerveau de Donetti. Une fois que le cerveau est enlevé, on lui met le cerveau de Donetti. Oxygène, sang est relié à l'ordinateur pour qu'il puisse recevoir les messages de l'autre. Rayon laser qui bombarde les deux cerveaux. Le cerveau de Donetti, les canaux et les nerfs ont été reliés à celui du corps de Féti. On oxygène aussi le corps. Tout semble bien se passer. Maintenant, il faut attendre que les deux cerveaux se connectent et qu'ils puissent avoir des informations de l'autre. Cela peut durer des jours et des jours. Mais tout va bien. Pour Féti, le corps réagit bien. Pendant ce temps, les agents de Danfort font leur chantage sur les cardinaux pour vol, viol, amour de toutes sortes, etc. Les cardinaux se disent que les jours du pape sont comptés et l'on commence à faire le vide autour de lui. Mais l'on s'inquiète de l'absence de Rome de Féti. Personne sait où il est allé. Son secrétaire reçoit de plus en plus d'invitations, des cadeaux. Il a de plus en plus d'amis. Mais il a disparu. On se dit qu'il doit préparer sa campagne dans un endroit tranquille. Se rend compte de rien. Il ne pense qu'à son Galien et aime la solitude. Il attend avec impatience les lettres de Galien. Mais son amour ne l'empêche pas d'être pieux et de faire son devoir de prêtre et de piété. Dans l'ensemble, au Vatican, on l'aime bien. Il n'est pas difficile ni sévère.
ce sont ceux de l'extérieur, ceux qui jouent les courtisans, qui ne l'aiment pas ou plus parce qu'ils pensent que c'est fini pour lui.
Un jour, il reçoit une lettre touchante de Galien. Il lui dit qu'il va passer par Rome et qu'il serait heureux de le voir, mais en privé et que personne ne le sache. Le pape peut-il lui donner un lieu tranquille, hors des regards indiscrets et en dehors de la ville? Le pape est heureux et se dit que peut-être qu'il l'aime lui aussi. Bien sûr qu'il veut le recevoir, mais il faut qu'il cherche un lieu tranquille où le verra seul et que personne ne le sache. Alors, il se remet à rêver à leur retrouvaille, dans un endroit solitaire où Galien le prendra dans ses bras et lui dira son amour en lui donnant des baisers. Puis, ils s'uniront sur le sol. Il aura contre lui ce corps si beau, si chaud, le visage à la DiCaprio. Il a demandé la copie du film. La Fox a été surprise et eut peur que le pape interdise le film pour immoralité. Mais le secrétaire du pape leur a dit que c'est simplement pour avoir peur et par pure esthétique que le pape demande à voir le film, comme Julien Green a demandé à le voir lui aussi. Il en a envoyé une copie au pape qui se l'est fait projeter. Il a aimé et a voulu le voir plusieurs fois. La Fox est heureuse que le pape ait aimé son film et aimerait marquer sur la vidéocassette le Titanic, le film préféré du pape. Mais là, on leur a dit que c'était un peu trop. Et que l'homme le plus puissant du monde, s'il fait de la pub, c'est hors de prix. Alors la Fox donne la copie et dit qu'il peut la diffuser autant de temps qu'il peut. Et la Fox envoie toutes les copies de ses films, films d'action, de sexe et tout. Et elles disent en privé que la Fox est la maison de production et de distribution des films officiels du Vatican. Oui, le pape doit trouver un coin tranquille pour recevoir son amour. Au Vatican, c'est impossible, tout le monde le saurait. Et Galien cherche un endroit discret et secret. Et il faut qu'il le prévienne, qu'il lui dise avant qu'il ne vienne. En plus, il faut que le pape trouve un prétexte pour sortir de son palais et se trouver seul dans un lieu. Il réfléchit. Et se dit qu'il existe en pleine campagne une chapelle qui pourrait y aller et demander à rester seul. La chapelle est abandonnée et a deux entrées, dont une qui passe par les catacombes de Rome. Quelqu'un pourrait entrer par la chapelle sans être vu, en passant par les catacombes et lui par la porte principale. Comme ça, personne ne saurait qu'il est avec quelqu'un dans la chapelle. Il prend le plan de la chapelle
où l'on voit le souterrain et où il aboutit à Rome. L'entrée de Rome se trouve dans une cave d'une vieille maison au fond d'une ruelle. La maison est un passage et c'est jamais fermé. Le passage est dans la cour de cette maison. Alors il écrit comment passer pour aller à la chapelle, donne la date et l'heure.
Allô? J'aimerais c'est que Monsieur Danfort puisse venir le plus rapidement possible à mon bureau. Merci.
Entrez. C'est Danfort qui rentre. Venez vous asseoir, Monsieur Danfort.
Bien, monsieur.
Voilà, je vous ai fait venir parce que j'ai reçu une lettre du pape qui me donne rendez-vous. Tenez, lisez-la.
Merci, monsieur. Le président.
Danfort la lit.
Mais monsieur le président, il faut... J'ai vu répondre. Que vous êtes d'accord ? Vous allez venir comme convenu.
Très bien. Alors, je compte sur vous pour préparer tout ce qu'il faut.
Oui, monsieur.
Vous pouvez disposer, monsieur.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Le pape fait savoir à son secrétaire
« Je désire, c'est me recueillir un moment dans la chapelle de Saint-Sébastien, seul, pour prier pour les premiers chrétiens. »
Le secrétaire lui dit « Ce sera très bien et ça aura une portée, un geste. Vous allez... retourner aux sources de la religion catholique, au temps où les catholiques étaient pauvres, persécutés. C'est un retour aux sources, un retour vers ceux qui souffrent.
Le pape, quelques jours plus tard, part en voiture, chauffeur, à son lieu de rendez-vous. Les journalistes ont été prévenus. Le pape retourne aux origines de la chrétienté, mais ont reçu l'ordre de laisser en paix le saint homme. Ce geste met le pape dans la sainteté, un pape pur et bon. Ceux qui l'avaient abandonné le courtisent, se mettent à le regretter. Est-ce que le pape ne reviendrait-il pas au goût du jour et ne va-t-il pas être adoré comme un saint homme, comme un saint vivant? On pense déjà à retourner au Vatican, faire sa cour. Les églises, pendant qu'il se rend à sa chapelle, on dit des messes pour lui. On vend des cartes à son effigie, on brûle des cierges. Tout Rome s'arrête pour être à l'unisson de ce pape si bon, qui retourne aux sources, c'est-à-dire aux pauvres et aux martyrs. Même dans les maisons, l'on prie. Les cloches de toutes les églises sonnent. Des femmes habillées de noir se promènent avec des chapelets. La place Saint-Pierre se remplit de monde et attend le retour du saint homme qui va s'isoler dans une chapelle pour prier les pauvres et les martyrs. On l'appelle le bon pape. Les ambassades et les gouvernements n'y comprennent plus rien. Pourquoi tout ce bruit? Pour rien. En tout cas, on envoie des télégrammes d'amitié au pape. Les vitrines des magasins ont mis le portrait du pape. On a fait des gâteaux du pape, des livres sur lui. Les églises sont pleines. La télévision, la radio, fait des films sur le pape, raconte sa vie et ses bontés. On fait parler la moindre personne qu'il a perçue et entrevue. C'est pire que Diana. Galien est triste tout de même. Il va faire tuer un homme, c'est tout de même quelque chose. Surtout que cet homme ne lui a rien fait, et même qu'il a été très gentil avec lui. Mais que faire? Il faut récupérer le cerveau de Guillaume. Et il faut le faire avant que le pape ne meure. Car s'il mourait, il serait embaumé et le cerveau vidé et brûlé. Adieu Guillaume. Non, il faut tuer le pape, tant pis. Il va à Rome incognito avec un médecin, deux infirmières et un tueur, car l'on ne peut pas demander au même homme de tuer et de sauver la vie. Sont arrivés à Rome et vont sortir de l'aéroport pour prendre une voiture et une camionnette pour aller à la direction indiquée par le pape. Une fois arrivés dans l'impasse, ils entrent dans l'allée. C'est un très vieil immeuble et on fait en sorte de ne pas être vu. Ils se dirigent vers la corve. Suivent un long couloir.